Attention. Mais il fait très siège présidentiel, je sais, là, ça met déjà la pression.
Il y a un passant. Alors, il y a toutes les étiquettes, après, on n'est pas obligé de respecter l'ordre de passage.
Au contraire, ça.
Bon, il nous manque un intervenant, le directeur des relations internationales de Dijon, vous m'entendez, ça va ? Qui remplace, qui représente François Rebsamen. Mais on va commencer, hein, ça le fera venir, parce que il est déjà, il y a presque une demi-heure de retard, et comme il y a aussi un programme cet après-midi, il faut qu'on avance. Donc, j'ai passé le mot à l'équipe, hein, on espère qu'il va nous rejoindre rapidement. Merci à tous d'être ici. Lucas Gibouin, je suis chargé de mission à Cités Unies France. Cet atelier, il a été surtout préparé par Clément Lugagne, coordinateur du réseau Cycle, dont il va nous parler tout à l'heure. Et puis, donc, cette table ronde va se tenir avec Nicolas Livage, responsable énergie chez Experts Solidaires, Odile Miel-Girès, deuxième vice-présidente du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor, Isabelle Demiguel, directrice générale adjointe ressources et moyens du syndicat électricité et gaz d'Île-de-France, Jean-Marie Tétard, maire de Houdan, président du PSO et président du GIP CID, coopération internationale et développement, et enfin, donc, l'absent, on espère qu'il va arriver, Bertrand Faure, directeur des relations internationales de la métropole de Dijon. Voilà. Clément, je te laisse poursuivre.
Merci beaucoup, Lucas. Et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de participer à cet atelier. Merci à Cités Unies France, du coup, de nous permettre d'organiser ce temps d'échange. Moi, je suis Clément Lugagne, donc coordinateur du réseau Cycle. Le réseau Cycle, c'est un réseau multi-acteurs qui traite de l'accès aux services énergétiques dans les pays en développement et qui est donc un réseau sectoriel, donc un facilitateur pour donc mettre en réseau les acteurs qui travaillent sur ces questions d'accès aux services énergétiques et produire de la connaissance et accompagner les acteurs désireux de porter des actions de coopération décentralisée ou de projets directement avec nos partenaires dans les pays en développement. Alors peut-être quelques petits mots introductifs avant de commencer cet atelier. Dans les pays en développement, donc une majorité de la population n'a encore donc pas accès à l'électricité. En Afrique subsaharienne, on a seulement 48% de la population qui a accès à l'électricité. Et ce chiffre tombe à 28% lorsque l'on est dans des zones rurales et 70% dans des zones urbaines. En ce qui concerne l'accès à des modes de cuisson propres, ce taux d'accès est inférieur à 10% pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Donc ces statistiques mettent clairement en évidence l'urgence d'agir, et en particulier dans les zones rurales et dans les contextes isolés. Pour répondre à tous ces enjeux, nos collectivités étrangères, nos collectivités françaises, nos OSC coopèrent et s'engagent ensemble donc, pour mener des projets de développement en coopération décentralisée. Et l'enjeu de cet atelier aujourd'hui, bah, c'est de façon assez pragmatique de se poser la question bah, comment le faire, quelle gouvernance avoir dans ces projets et ces programmes, quelle articulation entre les acteurs peut-on trouver et quels outils de financement avons-nous à notre disposition pour nous engager. Donc sans plus attendre, je vais directement donner la parole à Madame Miel Guirès et Monsieur Nicolas Livache.
Vous n'êtes pas fan de foot.
Miel Guirès et Monsieur Nicolas Livache qui vont nous parler donc, du coup de ce travail en coopération entre Experts Solidaires et le SDE22 et nous parler ben, donc de l'articulation qu'ils ont entre leurs deux structures et sur un projet donc, du coup à Madagascar.
On est en train de se... Ah, formidable, ça marche. On cherchait le bouton. Voilà. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous parler donc, du SDE22 et des actions qu'on engage, en tous les cas, de notre volonté de s'engager sur ces actions de solidarité internationale. Alors, pour resituer le SDE22, donc, le SDE22 regroupe... est administré par un conseil comité syndical qui regroupe 47 membres, à savoir 11 membres de PCI, hein, établissement public de coopération, enfin de... C'est les communes, les agglomérations, ce que nous on appelle les agglomérations, et le reste des membres étant des représentants des communes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque élection, donc à chaque fin de mandat, lorsqu'il y a les élections municipales, les communes et les EPCI nomment des représentants, et au sein du SDE22, il y a ensuite une élection qui est faite pour réduire ce nombre de représentants à donc 47. C'est important parce que c'est pour vous expliquer après que ce n'est pas une évidence et ça ne va pas de soi pour un SDE de s'engager financièrement et aussi dans les actions sur la coopération internationale sur les questions de l'électricité. Alors, le SDE22 sur les Côtes d'Armor, effectivement, accompagne les communes sur tout ce qui concerne la distribution de l'électricité, du gaz, l'éclairage public, les télécommunications. Et depuis... de nombreuses années, ça ne se compte pas non plus en décennies, mais on a développé notre expertise, notamment sur tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Hein. Il y a un véritable enjeu au niveau territorial, et donc on a revu complètement l'organigramme pour répondre vraiment à ces questions prégnantes, et pour montrer notre volonté de s'engager sur ces questions-là et de s'engager également sur la solidarité internationale, il y a une vice-présidence qui est la mienne, qui a pour sur les dossiers, notamment ce qui concerne tous les plans climat, air, énergie territoriaux, et ce qu'on appelle la relation aux usagers. Donc la relation aux usagers, ça va être les actions de solidarité énergétique sur le territoire hexagonal via le fonds de solidarité logement, les commissions paritaires de l'énergie, et sur les relations aux usagers à l'international, ce que je vais plus particulièrement développé sur mon intervention. Voilà. Donc, à l'international, depuis 2009, le SDE s'engage. Donc, s'engage via donc, des projets. Là, on vous a un peu listé, mais il ne s'agissait pas de faire une liste à la Prévert. On est essentiellement et pratiquement aujourd'hui que sur des actions sur Madagascar et sur l'Afrique. C'est parce que nos partenaires, c'est les projets qui ont émergé, mais on n'est pas fermé sur un continent particulier. Hein. C'est pas ça la démarche. La démarche, c'est bien de participer à l'aide et de voir la pierre qu'on peut apporter à l'édifice. Donc sur les projets déjà faits, il y a aussi des projets qui sont en cours et qui vont passer donc en vote au comité syndical. À chaque fois, en fait, c'est comme un conseil municipal, c'est-à-dire on présente le projet et il y a un vote. Ça va pas de soi. ça ne va pas de soi que c'est bien de porter des projets internationaux. Chaque fois, je dois réexpliquer le pourquoi du comment. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix aujourd'hui de s'appuyer, de ne pas mener nos projets tout seul, mais de s'appuyer sur des associations telles qu'Électriciens sans frontières, Experts solidaires, pour des projets qui nous semblent, alors de qualité, c'est bien présomptueux de ma part de dire s'ils sont de qualité, mais en tous les cas, de dire qu'ils ont du sens pour nous et qui correspondent bien aux questions qu'aujourd'hui on se pose sur les questions de la solidarité énergétique. Hein. Donc on s'appuie sur ces associations parce qu'elles ont un ancrage local. C'est important pour nous. C'est important qu'on ait un retour de ce qui a été fait, qu'on y explique aussi ce qui a été fait, parce qu'on pense que ce retour d'expérience est enrichissant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'unilatéral. On va aider un projet à un endroit X de la planète, c'est bien. On va apporter notre aide, mais en contrepartie, on va dire, les gens qui vont utiliser les ressources qu'on a proposées, les équipements qu'on a mis en place, vont avoir un retour d'expérience qui va être très enrichissant pour nous. Et d'autant plus enrichissant, alors je ne suis pas mes diapos, hein, donc vous pouvez bouger les diapos parce que je ne suis pas du tout mes diapos. Ah d'accord, c'est toi. Bon d'accord, ok. Du coup, c'est ce que je vous disais, ce qui est important, c'est les retours d'expérience. Et c'est d'autant plus important que pour nous, aujourd'hui, l'un des challenges, on va dire, du SDE22, c'est qu'on travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle les circuits courts en termes d'énergie, donc au niveau de notre département. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on s'aperçoit que dans les projets où on est partenaire sur ces projets à l'international, en fait, on est sur quelque chose qui est souvent très proche de l'humain, avec, on va dire, une dimension très, très humaine. Des fois, nous, on a des choses, c'est des usines à gaz. Enfin, c'est des choses, on perd finalement le retour de l'utilisateur, de l'usager. Et du coup, dans nos perspectives, on se projette justement sur cette idée que tous ces retours qui vont être faits sur des choses qu'on va avoir mis en place sur des petites unités de vie, hein, ça va être encore aussi des choses qui vont nous enrichir. Et aussi, on va développer le fait, dans notre perspective, d'alimenter aussi nos techniciens sur ces retours d'expérience et qu'eux aussi puissent alimenter. Voilà, on est vraiment sur du donnant-donnant. Il ne s'agit pas... on donne et on n'a pas... Et c'est ça la richesse. Et c'est pour ça que le SDE s'engage. On a un SDE qui s'engage pas mal, hein, au niveau financier. On est sur des projets... lorsqu'on fait un financement annuel, on est à peu près sur 40 000 euros. Et là, on est sur des perspectives de conventionnement sur 3 ou 4 ans, avec cette somme injectée tous les ans pour avoir des projets donc, qui s'inscrivent plus dans le temps. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est une évidence pour nous. C'est une évidence qu'en termes de solidarité internationale, l'humanité ne perdra pas son humanité si la solidarité internationale joue. Hein, c'est-à-dire qu'on est comme une chaîne d'union où la main tendue, ce n'est pas une option, c'est une évidence. C'est ce qui, tout à l'heure, on parlait des jeunesses, mais c'est ce qui va permettre aussi à nos jeunesses d'avoir un avenir. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout le temps, parce que je vous ai dit que vous serez gardien du temps. Donc, je ne veux pas avoir trop débordé. Et de toute façon...
C'est très bon. Vous êtes dans les temps...
S'il y a besoin, je pourrais clarifier sans aucun problème. Et donc, je passe le micro à Nicolas, donc expert solidaire, qui est un de nos partenaires de qualité.
Merci, Odile. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis en effet Nicolas Livache d'Experts Solidaires, en charge des projets d'accès à l'énergie. On souhaitait intervenir aujourd'hui et faire une présentation un petit peu commune avec Odile et le SDE22 pour illustrer un partenariat entre une ONG et un syndicat d'énergie. Donc, Odile a bien présenté un petit peu les enjeux, les objectifs pour le syndicat. Moi, je vais essayer de mettre en lumière ou de vous montrer un petit peu ce qu'on fait et comment, au fil du temps, le projet, la réflexion, elle s'alimente, elle se construit ensemble. Donc avec le SDE22, on a mené deux projets autour de l'accès à l'énergie et de l'amélioration des conditions de développement socio-économique à Madagascar. On en a un troisième qui passera au conseil syndical, au prochain conseil syndical, donc croisons tous les doigts. Mais voilà, c'est une collaboration qui est inscrite depuis 2017. Voilà, une collaboration qui est inscrite depuis 2017, qui s'inscrit dans un contexte malgache qui est assez difficile en termes d'accès à l'énergie, où il y a plus d'une soixantaine de pourcents de la population qui vit en zone rurale, qui sont des zones dans lesquelles il y a autour d'une dizaine de pourcents d'accès à l'énergie, ce qui fait un peu plus de 18 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et on se retrouve malgré tout ça dans des contextes avec des opportunités qui sont importantes, parce que ces zones rurales sont des zones avec des besoins importants, mais sont aussi des zones où il y a la possibilité de créer énormément de valeur qui souvent n'est pas possible par manque d'électricité. Alors l'exemple qu'on peut donner souvent, c'est un travail autour du riz. Par exemple, le riz peut être décortiqué en zone rurale. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est un peu plus difficile et on est obligé d'aller à la ville ou de fonctionner avec des machines thermiques qui sont très consommatrices de gasoil. Donc en tout cas, l'énergie est vue comme une opportunité d'ancrer des activités à forte valeur ajoutée et de pouvoir être source de développement, de revenus et donc de faciliter un meilleur accès derrière à la santé, à l'éducation, etc. Et il y a la nécessité, il nous semble, d'ancrer ces projets d'accès à l'énergie dans une démarche territoriale assez forte et avec un ancrage local prononcé. Donc nous, le niveau d'ancrage qu'on a décidé d'avoir et qui nous semble le plus adapté dans le contexte malgache, c'est le niveau communal, où on essaie d'inscrire ces projets d'accès à l'énergie avec les communes en les appuyant dans un rôle de maîtrise d'ouvrage et en essayant de mobiliser un secteur privé malgache dans la participation au développement, au financement, à la gestion, à l'entretien, au renouvellement et à l'extension de ces projets d'accès à l'énergie. Donc, par rapport à tout ça, bon, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, le que faire, d'essayer de monter des projets avec cet ancrage local fort. Alors, on parle de la règle des 6D, décarbonisation, développement, dynamisation, décentralisation, digitalisation, diffusion. Ça, l'objectif, c'est aussi de montrer que les projets d'accès à l'énergie, en fait, ils ne vont pas se limiter uniquement à des problématiques d'ingénierie énergétique et que pour que ça fonctionne, il y a la nécessité d'avoir un ancrage local très fort, un niveau de gouvernance local assez important, et puis surtout que l'énergie soit un vecteur de développement économique, vecteur d'éducation, vecteur de santé, et qu'en fait tout ça s'accompagne. Donc au fil du temps, on a élargi un petit peu notre action, et avec une approche qui était initialement plutôt orienté sur l'énergie, la production, la distribution d'énergie, on va vers des projets de plus en plus holistiques et de plus en plus intégrés, où on traite la question de l'énergie, la question de la gouvernance, la question de l'utilisation de l'énergie, la question de l'accès au marché de ces nouveaux entrepreneurs qui utilisent l'électricité pour développer des activités. Donc voilà. Toute cette approche dont je suis en train de parler s'est construite au cours du temps. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille à Madagascar. Je le disais au début, sur une logique plutôt technique avec des mini-réseaux où on se concentrait production, distribution d'énergie. Et puis au fil du temps, on a monté une approche qu'on appelle l'approche REV, qui veut dire réseau d'énergie villageoise, alors énergie au pluriel, parce qu'on parle d'énergie technique, d'énergie humaine, d'énergie sociale, d'énergie financière. En tout cas, l'idée, c'était à travers ce nom-là de pouvoir montrer que les problématiques d'accès à l'énergie et de développement, elles étaient hyper intégrées et qu'on avait besoin de réussir à actionner plusieurs ficelles ou plusieurs leviers en même temps. Donc, à Madagascar, on a mis en place 4 projets. Il y en a 3 qui sont en cours de développement. Je vais passer rapidement à quelques photos pour mettre en lumière spécifiquement les projets qui ont été menés avec le SDE22. Donc, le premier projet, c'est le mini-réseau du village de Maroussel, qui est situé dans le nord de Madagascar. C'est une centrale solaire d'un peu plus de 80 kW. avec un mini réseau à l'échelle du village. On a mis en place un bâtiment que vous voyez en photo qui accueille en toiture des panneaux solaires et qui accueille au sol les bâtiments techniques et puis un ensemble d'activités génératrices de revenus. On a un petit atelier de déshydratation de fruits, on a un atelier de soudure, on a un menuisier. Voilà, en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir avoir cet espace de développement économique. Et puis, sur ce projet-là, on a tiré un réseau d'à peu près 4 km qui vient desservir les écoles, les centres de santé, les ménages et puis d'autres activités économiques à l'échelle du village. Ce projet a rencontré beaucoup de succès. Donc voilà quelques images. Hein. Techniquement, c'était assez engageant parce que c'est une belle centrale pour une zone rurale malgache avec un parc de batteries conséquent, des problématiques de réseau. Là, donc on voit une petite image des équipes malgaches qui étaient en formation sur le tirage des lignes réseau. Voilà. À gauche, c'est Saïd qui est couturier. Bon, voilà, quelques images de vie du projet. Ce que je veux maintenant, je vous en ai, c'est sur la construction de l'approche rêve. Donc, je parlais tout à l'heure de partenariat qui se construit dans le temps avec le SDE et de réflexion qui s'affine. On s'est rendu compte que les problématiques de mini-réseau, elles étaient importantes, mais elles étaient aussi super capitalistiques parce que c'était des centrales assez importantes, un réseau de distribution à l'échelle de la commune, etc. Et que ce n'était pas systématiquement gagné que ça allait engendrer du développement socio-économique au niveau du village. Et que l'enjeu, en tout cas pour une ONG comme la nôtre, c'était de réussir à allumer une étincelle ou à démarrer une démarche sur un territoire. Et on a décidé d'avoir des projets qui étaient un petit peu plus modestes au niveau énergétique et au niveau investissement, mais par contre de mettre le paquet sur tout l'environnement des projets d'énergie. Donc cet environnement, c'est le mode de gouvernance, l'accompagnement des entrepreneurs, l'accès au marché pour les entrepreneurs, le soutien à des organisations de la société civile. Et puis l'appui à la commune, je le disais tout à l'heure en tant que maître d'ouvrage, et que la commune puisse s'approprier le projet et que le rêve soit le point de départ d'une démarche. Ça veut dire qu'on commence avec un petit centre énergétique qui va proposer un ensemble de services et soutenir un ensemble d'activités. Et progressivement, en fonction du dynamisme de village, de l'engagement des acteurs, de la volonté politique, des réflexions sur la planification, le rêve est amené à grandir et à tendre vers un mini-réseau. L'idée, c'est d'inverser la machine et plutôt que de faire des gros projets où on court toujours après de nouveaux consommateurs, de nouveaux utilisateurs pour viabiliser le modèle et répondre aux enjeux de renouvellement du matériel, c'est d'inverser la chose en disant on commence plus petit, mais on va avoir des projets qui vont fonctionner très vite un niveau maximum de leur capacité, et c'est la demande et le dynamisme du village qui va tirer la technique et qui va tirer le développement. Ça permet aussi de passer plus de temps à accompagner les acteurs et à mettre le paquet entre guillemets sur cette démarche partenariale qui a beaucoup été évoquée en plénière. Donc voilà, donc on a fait un premier rêve avec le syndicat d'énergie des Côtes d'Arbor, entre autres, mais aussi avec d'autres acteurs comme la région Hauts-de-France, qui je sais est présente ici. Donc le rêve d'Anchankaran, il a été mis en service au mois d'avril. C'est une dizaine de kilowatts de panneaux solaires, un parc de batteries, un gestionnaire privé qui a co-investi dans le système. Ça, c'est vraiment un prérequis pour deux raisons. Le premier, c'est l'engager un petit peu dans une logique de résultat et l'obliger à avoir une installation qui fonctionne puisqu'il a investi. Et puis, c'est aussi une vision, la vision de vouloir donner ou permettre à des acteurs territoriaux plutôt de petite taille de prendre possession de la logique de développement de son territoire. Donc aujourd'hui, il y a une douzaine d'entrepreneurs, il y a à peu près 2000 personnes qui utilisent les services du rêve. Donc voilà, je peux vous montrer quelques photos de la vie autour du projet, des temps de formation, des temps de réflexion.
Voilà, quelques activités économiques. Alaoui, qui est menuisier soudeur, donc qui a pu relocaliser l'activité dans le village. Il a un témoignage assez sympa où il explique comment ses revenus lui ont permis notamment d'assurer l'approvisionnement en riz de toute sa famille. On a Saïd, qui est un peu notre super success story, qui fait de la transformation de cacao et la fabrication de chocolat directement dans le village. On est dans le nord de Madagascar. C'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup de cacao. Le cacao n'était pas transformé à Madagascar, ou alors uniquement à la capitale. Et donc, c'est la première usine de transformation de cacao avec un chocolat qui est transformé quasiment au pied de l'arbre. Donc ça, c'est vraiment une belle histoire. On a un peu de coiffure, un peu de couture. On a une laverie. Ça aussi, c'était assez rigolo de bosser sur ce projet-là et de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire la pénibilité ou la charge quotidienne sur les vêtements. Et donc, on a une petite laverie de brousse qui fonctionne du tonnerre. Là, Jeanne Esther est très contente de ses activités. Voilà, quelques photos de vie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le rêve, il est vu comme un espace de développement socio-économique au cœur du village. Donc, il est installé dans le village et ça a vocation à être un lieu de passage, un lieu de vie, un lieu d'animation. La commune prévoit d'installer son marché autour du rêve. Donc, c'est d'en faire un lieu de vie, un lieu de création de liens, etc. Ça fait un peu écho avec les dynamiques des petits centres-bourgs qu'on peut trouver en France, qui ont parfois tendance à se mourir, de ces réflexions-là et de pouvoir concentrer de l'activité. C'est des choses qui... Ça fait partie des discussions qu'on a eues avec le SDE. Quelques images. Et puis, vous dire que cette approche-là, elle se poursuit avec trois nouvelles communes qui vont être accompagnées dans le nord de Madagascar à travers un projet qu'on a appelé « Des rêves », donc « Développement de réseau d'énergie villageoise ». Là, on va un petit peu plus loin, notamment en essayant d'accompagner plus largement les organisations de la société civile et puis les entrepreneurs. Alors, dans la première version du rêve, on était beaucoup centré sur des formations entrepreneuriales. Là, on va essayer d'appuyer beaucoup l'accès au marché de ces entrepreneurs, parce que produire du cacao, du chocolat, c'est génial, mais si on n'arrive pas à le diffuser, à le vendre, on ne répond pas tout à fait à la problématique. Donc, on va essayer d'aller plus loin là-dessus et puis de continuer le renforcement de capacité du gestionnaire, qui est un peu la pierre angulaire de cette démarche. Voilà, je vois Clément qui sourit, donc je me dépêche. Quelques images des communes, des futures communes d'intervention. Et puis, juste un petit mot pour vous dire qu'on est bien ancré à Madagascar, mais qu'on est aussi, qu'on commence des réflexions dans d'autres géographies, notamment au Pérou, en Palestine et au Bénin. Là, donc, on a des projets un petit peu qui sont en cours de construction, dans une démarche un petit peu similaire de développement socio-économique. Donc, on serait heureux de pouvoir en discuter avec des collectivités, des syndicats, des communes qui auraient envie de mener des projets de coopération dans ces géographies et sur ces thématiques. Voilà, je suis sûr que je n'ai pas du tout respecté le temps, mais voilà, comme c'est...
Non, merci beaucoup pour ces deux interventions. Donc, alors, plusieurs points qu'on retient. Le premier, qui était un petit peu évoqué tout à l'heure en plénière, donc cette logique de coopération et cette question de réciprocité, avec donc d'un côté des attentes du côté des élus du SDE pour capitaliser sur de bonnes pratiques dans vos projets de la collectivité, et d'un autre côté, donc une autre structure donc qui a donc un ancrage local fort et donc avec une collectivité donc locale donc à Madagascar donc qui a différents besoins donc de développement. Un autre point également que je vais retenir, donc c'est plus particulièrement donc sur le modèle rêve, donc qui est un service donc du coup intégré qui répond aux besoins de développement du territoire, et on voit très clairement que c'est pas simplement que l'énergie en fait se limite pas simplement aux questions techniques, mais qu'en fait il y a vraiment tout ce côté en fait d'accompagnement aux différents modes de gouvernance, d'accompagnement des acteurs aux usages de l'électricité. Et donc à SIC notamment, on est très sensible à toutes ces questions-là. Donc on va passer maintenant à notre seconde présentation. Donc Madame de Miguel, du CIGEF.
Bonjour.
Et donc ça fait maintenant 20 ans que le CIGEF est engagé en coopération. Et donc voilà, pouvez-vous nous présenter un petit peu les différentes modalités d'action du syndicat et les différents outils que vous mobilisez pour vous engager.
Donc, bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui le CIGEF, le syndicat d'électricité et de gaz en Île-de-France. Je sais pas, le PowerPoint. Ouais. Comme le syndicat des Côtes d'Armor, c'est un syndicat qui avait un métier historique sur concession gaz et électricité et qui aujourd'hui est sur des projets, développe également une expertise en matière de transition énergétique. Donc on installe les bornes électriques en Île-de-France, on est à plus de 1000 bornes installées. On porte des projets innovants sur le photovoltaïque, la méthanisation, beaucoup de projets qu'on soutient en Île-de-France. Et comme vous l'avez dit, on est un acteur qui est engagé depuis plus de 20 ans, donc 2004. En matière de coopération décentralisée. Donc on a soutenu plus d'une soixantaine de projets depuis 2004 dans des zones géographiques, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de pays dans lesquels on est intervenu et principalement autour de l'énergie puisque c'est l'objet du syndicat et qu'on porte des actions dans ce domaine. Donc on a une organisation, enfin c'est des sujets qui sont fortement portés au niveau politique puisqu'on a un président qui croit beaucoup à la coopération décentralisée et une vice-présidence. Donc ça marque l'engagement sur ce sujet. Et on a aussi une commission de coopération décentralisée, donc on a 15 élus qui sont fortement impliqués. On n'a pas de problème de présence en commission. Et donc les porteurs de projets sont auditionnés par cette commission qui se réunit plusieurs fois par an et qui, les associations viennent présenter leurs projets, expliquer comment ils fonctionnent, comment ils suivent le projet, ce qu'ils comptent mettre en place. Et donc après, il y a un vote sur le projet. On alloue une enveloppe d'environ 150 000 euros par an qui permet à la fois de financer des petits projets, mais aussi des fois d'être sur des gros projets qui mobilisent plusieurs syndicats. On avait la commission hier où on a financé un projet avec le CEDIF, le SICTOM, un gros projet. Nous, on ne mettait que 20 000 euros, mais... c'était un projet important au Bénin qui visait l'assainissement, l'eau et les déchets, qui était sur une vision assez transversale. Ce que je peux dire. On soutient des projets qui puissent être... on est attentif à la durabilité dans le temps, à l'appui sur les acteurs locaux. Et puis à l'impact environnemental des solutions mises en place. Alors je vous rejoins sur le fait que les micro-projets sont des fois vraiment très très intéressants et avec peu moyens on peut faire des très belles choses. Donc on est très heureux de pouvoir accompagner ces projets. Et je voulais aussi dire que l'administration était en appui. Le CIGEF, c'est une petite équipe. On est un peu moins de 40 salariés. Mais par contre, on est tous assez, assez fiers et assez heureux de pouvoir contribuer à ces projets. Et je pense que c'est pour le personnel enrichissant, aussi bien d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Et je pense que ça permet aussi d'essaimer des engagements extra-professionnels. On est des fois sollicité par les associations. Il y a des collègues, je pense que ça peut solliciter des envies d'initiative et d'engagement en dehors. Donc je pense que, et nos élus aussi, puisqu'ils sont élus au CIGEF, mais élus communaux, donc voilà, on est voilà, aussi attentifs à ce qui se passe dans les communes et à essayer de développer la coopération décentralisée à toutes les échelles. Après, j'avais mis un petit schéma. Donc on intervient aussi bien en soutien à des ONG que en soutien des collectivités étrangères, mais à ce moment-là, plus avec en appui aux communes qui sont adhérentes du syndicat. Donc voilà, on a plusieurs modes d'intervention, mais le principal, c'est quand même en soutien d'ONG. Je vous ai mis en illustration quelques projets. Voilà, on est sur des projets autour de l'énergie, de l'accès à l'énergie, sur le photovoltaïque. Voilà, et avec électricité sans frontières qui sont présents à Madagascar aussi, avec la distribution d'eau potable avec un système de pompage solaire. Et en Arménie, on a plusieurs projets avec le Fonds arménien de France qui a une forte expertise en énergie renouvelable et notamment en panneaux photovoltaïques. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire en accélérer.
Non, merci beaucoup, Madame de Minguel, pour cette intervention. Alors, comme on l'a dit, du coup, Électricité sans frontières, qui est présent dans la salle, et donc participe également, est soutenu par le CIGEF. Peut-être si vous avez souhaité dire quelques mots ou d'être par la suite. Ok, bon, peut-être. Et par le SDE 22 également, voilà. Et non, mais alors du coup, merci beaucoup. Donc moi, je retiens plusieurs choses. Alors, c'est que cet engagement, il est partagé donc à la fois par les élus de la collectivité, mais également par les services techniques. Et ça, c'est vrai que c'est important également de le rappeler. Ensuite, c'est voilà vos différents modes d'action. Vous n'êtes pas seulement donc au soutien des, enfin en partie du coup au soutien des ONG, mais également aussi directement via les collectivités. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et donc je vais céder la parole du coup à notre dernier intervenant, donc Jean-Marie Tétard. Alors vous avez plusieurs casquettes, donc du coup vous êtes maire de Houdan, vous êtes président du GIP ICID et également président du programme Solidarité Eau. Est-ce qui vous donne donc du coup une vision un peu transversale de l'action internationale. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu cette vision et nous donner quelques recommandations pour les collectivités qui souhaitent s'engager pour l'accès aux services essentiels ?
Ça marche.
Ça oui. Marche.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Comment vous dire ? Je crois qu'il n'y a pas de risque pour un élu à s'engager en coopération internationale, en solidarité. Il n'y a pas de risque parce que d'abord, l'opinion publique est encore favorable à l'aide au développement et à la solidarité internationale. Et elle accorde une plus grande confiance à l'action à la base que dans l'action des gouvernements ou des grandes institutions. Tous les sondages le montrent. Et je n'ai pas encore vu un maire ne pas être réélu parce qu'il aurait engagé une solidarité internationale. Il peut l'être parce que sa politique de transport est mauvaise, la politique de logement l'est moins, etc. Mais je n'ai pas vu. Et donc, il faut finalement ne pas surdoser, quand on est élu, les dommages qu'il pourrait y avoir. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est encore plus facile de se décider à faire de la coopération internationale plus on s'éloigne du niveau de la population. Je vais être très cynique, mais dans les syndicats intercommunaux, dans les agglos, où on est élu par ricochet, en espèce de pyramide ascendante, à la fin, on est très loin de l'usager de base. Et dans les syndicats d'eau, etc., on communique avec lui par la facture d'eau et pas par grand-chose d'autre. Et quelque part, on n'a pas à rendre compte, comme moi je l'ai en tant que maire, dans une commune de pratiquement 4000 habitants, ou élu depuis 1995, quand je traverse la commune, on m'interroge sur tout, y compris, mais pourquoi tu vas engager de l'argent pour mettre de l'eau à Baïla en Casamance ? Et donc, tout ceci, je suis obligé d'expliquer, de rendre les gens solidaires de la décision du Conseil, etc. Et donc, je pense aussi que la coopération décentralisée, et maintenant, ne donne pas de risque juridique aux élus. les lois successives ont encadré et ont permis de faire de la coopération décentralisée en reconnaissant l'investissement d'argent dans la coopération décentralisée comme d'intérêt local, ce qui évite tous les contentieux, et a permis pour ceux qui voudraient être bien encadrés par les mécanismes de 1%, etc., de pouvoir avoir des justifications tout à fait solides. Donc pas de risque politique pour ma part, sauf si dans l'émission on est en première et qu'on va dans des hôtels 6 étoiles, mais sinon si on a une vie normale, il n'y a aucun problème pour continuer à faire ce type de coopération. Et donc les conditions étant réunies, je crois qu'il faut s'interroger sur ce que devrait être un projet de coopération. D'abord, c'est sans doute celui dont a envie le partenaire au sud. Ce n'est pas forcément celui qu'on a envie de projeter sur lui. Alors, nous, on projette souvent des choses qui sont le résultat de ce qu'on pense être bien et puis de nos règles financières et nos règles les plus diverses. Bon, par contre, je crois que, et tout à l'heure, j'entendais la fin de la plénière, où on disait qu'il faut se coordonner entre villes françaises qui interviennent sur le même site, entre villes européennes, etc. Je pense d'abord que ce sont les collectivités bénéficiaires qui devraient se donner une politique de coopération et d'abord un projet de territoire, un projet pour leur ville, et pas simplement le catalogue qu'il y a dans un plan de développement communal où on a un catalogue de tout. Non, il faut avoir un projet qui, un peu comme vous l'indiquiez, est un rêve local. Moi, je suis en train de travailler sur un projet de territoire dans mon pays oudanais. Finalement, on rêve le pays en 2040 et on le décline. Eh bien, il faut se donner ses rêves. Et donc, quelque part, il faut d'abord aider, je crois, dans la coopération, la collectivité partenaire à établir son rêve et avoir une cohérence locale. Et ensuite, elle choisira les acteurs qui doivent se superposer pour aboutir à cela. Et dans ce rêve local, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas des trucs en silo. Il n'y a pas l'eau d'un côté, il n'y a pas l'assainissement de l'autre côté, l'énergie de l'autre côté, le transport de l'autre côté. Il n'y a aucun projet. Je crois que j'avais beaucoup travaillé sur la charte des services essentiels avec l'Institut de la gestion déléguée sur les services de base. Je crois qu'on dit que l'éducation, la santé sont des priorités, mais il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement économique sans eau, sans énergie, sans politique de déchets. Il n'y a pas de politique d'eau potable pérenne sans qu'on s'occupe de l'assainissement et des déchets. Et finalement, mettre en silo ces questions-là n'ont pas de sens. Petit à petit, on est rattrapé par les autres matières qui viennent gâcher ce qu'on a fait. Et les 1%, chacun de leur côté, n'ont pas beaucoup de sens non plus. Les possibilités ouvertes par les 1%. La loi, j'ai été un des parlementaires qui a discuté de ces questions. Bien sûr, les amis, le 1% en haut, le 1%, parce qu'ils n'ont pas été créés en même temps. Donc, on a fait des lois successives pour passer à l'autre 1%. Mais on voit que, quelque part, la cohérence d'un projet sur place appelle de convoquer les différents thèmes et donc de convoquer les vecteurs financiers qui permettent de le faire. Et quand on peut vous montrer que, finalement, trois entités puissantes, CEDIF, SICTOM et le CIGEIF, arrivent à se mettre d'accord pour, sur un même endroit, mettre de l'argent ensemble dans une approche globale. Alors, ce que vous faites, vous, dans des entités franciliennes, en gros, puissantes et qui ont chacun des histoires de coopération, on peut le faire dans les agglos, parce que finalement, les agglos, maintenant, l'eau, l'assainissement, les déchets et l'énergie, enfin, l'énergie un peu moins, mais eau, assainissement, déchets, ce sont les agglos, les comités d'agglos, les communautés urbaines qui les ont automatiquement. Donc, la commune n'a plus à s'interroger là-dessus. Et là, quelquefois, le 1% eau est dans les mains d'un vice-président de l'agglo, de la communauté urbaine, le 1% assainissement dans un autre vice-président et le troisième dans un autre vice-président, bon, quand ce n'est pas réuni. Donc là, finalement, il faut, si on a un projet cohérent qui est présenté par un partenaire directement ou par une ONG, il faut pouvoir y répondre de manière cohérente dans l'agglomération partenaire. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très important de se dire que petit à petit, il n'y aura de bons projets que s'ils s'intéressent à l'ensemble des vecteurs à la fois. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut avoir des projets plus petits, comme vous l'indiquiez, pour prendre tout à la fois, parce que sinon, ça serait hors de portée. Avec, je crois, l'obsession de se dire qu'il faut que ce soit pérenne et que ce soit moteur de gouvernance. Je dis même plus les mots dans les époques actuelles de gouvernance démocratique, etc., de gouvernance adaptée qui permette, en fonction des contextes, etc., de garder les installations pérennes et supportables progressivement par les habitants, mais pas seulement, parce que je crois qu'il faut des systèmes où des plus riches ou des compensent les plus pauvres, où l'activité économique compense les habitants, etc. Et je crois qu'il faut un système local qui permette ces compensations, ces péréquations. Et donc, je crois que c'est là-dedans qu'il faut s'engager et que les élus ont toute la main pour faire ça. Et quelque part aussi, par contre, et vous avez montré l'intérêt de la structure syndicale, la coopération décentralisée, ce n'est pas un chèque qu'on fait à une grande ONG avec un rapport final qui viendra à la fin de l'année. Non, ce n'est pas non plus... j'ai vu dans votre... Vous n'intervenez pas dans l'urgence. On est tous tentés dans les collectivités. Moi, je vais voter demain soir ou après-demain soir un 50 centimes d'euros par habitant pour le séisme au Maroc. Ce qui est pas mal, hein, 50 centimes, parce qu'on les accumule après la Turquie, etc. Et je le fais à chaque fois. Mais on ne va pas le mettre dans l'urgence. On va commencer à regarder comment on va le mettre dans un village, dans un projet, dans le temps de la reconstruction. C'est pas un chèque à une organisation avec un rapport final. Je crois que si on veut continuer à mettre de l'argent dedans, parce que finalement j'ai dit qu'il n'y a pas de risque politique, etc., il y a simplement une redevabilité et une acceptabilité. La population doit se sentir partie prenante de ça. Et tout ça dépend comment les élus endossent le projet. L'endossent avec leurs services, vous l'avez dit aussi, et mettent aussi la population dans le coup. Tout ce qui serait coopération par procuration ne marchera pas très longtemps. Et le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que, je le dis peut-être que certaines organisations m'en voudront, mais les collectivités locales ne sont pas non plus le manpower, main-d'œuvre réservoir de main-d'œuvre spécialisé à la charge des grands organismes internationaux ou des grandes ONG. Moi, prêter du personnel, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ma collectivité est engagée depuis 25 ans. Bon. Donc ça, ce n'est pas un réservoir de main-d'œuvre gratuit. Et deuxièmement, je crois que ce n'est pas non plus le prétexte pour que des organismes décrochent du financement dit de solidarité de coopération décentralisée, parce que les fonds sont des fonds de coopération décentralisée. Et on va chercher une collectivité en disant « Viens avec nous, tu vas nous permettre, mets 100 balles ». Et nous, on va décrocher aussi les gros financements. Bon, ça ne peut pas être ça. Sinon, ça ne durera pas. Et donc, je préfère qu'il y ait peut-être un tout petit peu moins de coopération centralisée, mais qu'elle soit sincère et qu'elle soit durable dans le temps pour tout le monde. Donc, voilà ce que je pouvais vous exprimer comme différents points de vue sur ce que je ressens de mon expérience là-dessus. Donc, en gros, je dirais aux élus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on peut y aller. Mais pour que ça soit durable dans le temps, il y a un certain nombre de conditions à réunir et à mettre en œuvre. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette intervention. Plusieurs points qu'on va retenir. Alors, le premier, c'est cette question donc, de la volonté politique et du fait qu'il n'y a pas de risque en fait, à s'engager en coopération internationale. Le second, c'est cette possibilité donc, de... cette nécessité en fait de venir en appui de la collectivité partenaire donc pour faire son diagnostic et de répondre de manière intégrée et de penser les projets donc plus petits donc à l'image des projets rêves et mais qui intègre en fait l'ensemble des services essentiels et évidemment, donc ce dernier point que vous avez relevé, donc d'avoir vraiment une coopération vraiment sincère. Voilà. Donc merci beaucoup à tous les intervenants et merci beaucoup pour vos interventions qui ont été très intéressantes. Je vous propose maintenant qu'on passe maintenant à l'échange avec la salle et qu'on puisse prendre vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc hop, je vois tout de suite. On va peut-être prendre. Allez, deux, trois interventions et laisser les intervenants réagir. Donc j'en vois déjà trois.
Oui, bon, merci Hervé Gouillet, électricien sans frontières. Je voudrais juste compléter un tout petit peu le propos de Jean-Marie Tétard sur la réponse aux besoins et l'approche intégrée. L'intérêt aussi de travailler avec les syndicats d'électricité, c'est que c'est des acteurs intermédiaires entre les collectivités, mais aussi tout un tas de réseaux d'entreprises. Et je pense que c'est pour répondre de façon pertinente aux besoins, c'est intéressant de faire des coalitions d'acteurs. Et donc le travail qu'on a pu faire, je vais reprendre l'exemple sur lequel on échangeait avec Odile tout à l'heure, à partir d'une coopération décentralisée de la ville de Saint-Brieuc sur Agadez. Voilà, on a mobilisé le syndicat, le SDE 22 s'était mobilisé, mais on a aussi mobilisé l'entreprise Ledu, qui était dont le président était aussi président du syndicat des entreprises de réseau. On a mobilisé Enedis et on a réussi à faire un projet où on a mobilisé tout un tas d'acteurs qui ont permis d'apporter une réponse plus efficace, plus économique. Et plus rapide. On ne pouvait pas aller sur place parce qu'il y avait des questions. C'était un peu dangereux. Donc on a fait venir les techniciens nigériens à Saint-Brieuc. On a fait un prototype qui a été réalisé. Ils sont restés à Saint-Brieuc quelques semaines pour être formés. On a profité de locaux d'Enedis pour pouvoir faire cette formation. L'entreprise Ledu a prêté du matériel. Le SDE un soutien financier. La ville de Saint-Brieuc un soutien logistique. Et donc les techniciens ont pu repartir une fois formés, faire les réalisations à Agadez. Je pense que c'est aussi intéressant les acteurs en tant que syndicats parce qu'ils peuvent mobiliser à la fois un réseau de collectivités, mais aussi un réseau d'entreprises et d'acteurs du secteur de l'énergie, mais aussi par capillarité des acteurs de l'eau et des déchets. Je pense que former des coalitions d'acteurs pour répondre de façon efficace à des projets de coopération décentralisée et de solidarité internationale plus largement, c'est aussi très très important.
Oui, bonjour, c'est Alberto Dotta, je travaille pour Expertise France, qui est l'agence française de coopération internationale dans le pôle énergie. J'ai noté au moins 7-8 questions, mais je vais essayer de me limiter à deux. Surtout sur le projet du rêve à Madagascar. Donc la première, c'était comment a été fait le choix des localités. Je me demandais s'il y avait eu des échanges avec les autorités nationales, si un plan national d'électrification rurale décentralisée existe, et si le choix de localité avait été fait sur cette base. Et plus particulièrement sur les choix de localité, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la distance par rapport au réseau national ou pas ? Et si éventuellement ces rêves et ces mini-réseaux sont potentiellement connectables au réseau national si une extension du réseau devait intervenir ? Et l'autre, c'est sur le système de tarification. Je me demandais si des échanges, je ne sais pas si à Madagascar, il y a un régulateur national, mais s'il y avait eu des échanges avec les régulateurs ou les autorités nationales sur la tarification, et est-ce que les villageois peuvent bénéficier du même tarif que les usagers connectés au réseau ou si un système spécifique avait été mis en place. Merci.
Ouais, bon, je sais pas si je peux.
Après, on fera un deuxième.
Ouais, on va faire un deuxième tour. La dernière peut-être intervention. Là, on prend juste cette dernière intervention.
Ouais, mais il avait voilà. Déjà ouais, j'ai déjà un micro avec la bonne dame. Bon, merci également à tout le monde. Je m'appelle Dame Ndiaye. Moi, je suis ingénieur au assainissement, mais je suis maire de Koloban, une commune de 35 000 habitants au centre du Sénégal. Par ailleurs, je suis également responsable des opérations au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. J'ai quand même eu l'opportunité de travailler pendant 10 ans dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal. C'est pourquoi je voudrais bien, en tout cas, appuyer les propos de Jean-Marie Tétard par rapport à la dynamique de coopération. C'est vrai qu'il y a parfois des inquiétudes. Parfois, le niveau de coopération qui existe peut être basé parfois sur juste des demandes. Mais de ma petite expérience, c'est plus une coopération qui doit être dynamique, basée d'abord sur la co-construction, de ne pas faire juste une coopération entre les élus, mais de mobiliser l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, Si je prends l'exemple d'une coopération, bon, je prends l'exemple de Oudan et Baïla ou autre commune, il y a certes une coopération entre le niveau élu, mais pour que cette coopération puisse être dynamique et pérenne, il faut que les acteurs des territoires également se parlent, que ce soit les écoles qui sont à Oudan, les écoles qui sont à Baïla. Ça permet au moins aux populations de comprendre l'action de l'extérieur de Oudan, par exemple, à Baïla. Ça aussi, pour moi, c'est des choses que les coopérations doivent en tout cas prendre en charge quand ils sont en expérience sur, sur l'international. J'ai quand même aussi une petite question, parce que moi, j'ai une commune de 35 000 habitants, mais on a quand même des localités composées presque de 60 localités. C'est pourquoi l'expérience de rêve me semble être assez intéressante. Souvent, c'est des zones qui sont très éloignées du réseau électrique. Et l'idée, en termes de services essentiels, il va falloir réfléchir sur une énergie solaire permettant à la fois peut-être à ces zones isolées d'être un peu plus autonomes. C'est pourquoi moi, j'aimerais bien après poursuivre les échanges avec SD ou Experts Solidaires pour voir, dans la mesure du possible, comment en tout cas construire cette dynamique pour ce type de localités qui sont au niveau du Sénégal, qui sont certes très loin du réseau électrique, si on essaie de les électrifier en termes donc de, d'accès. Merci.
Merci beaucoup. Bon, du coup, peut-être pour commencer, est-ce que vous avez des réactions, enfin, du coup, peut-être côté SDE et CIGEF, côté, enfin, par rapport à l'intervention et le complément d'Électriciens sans frontières ou...
Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure de façon un peu officieuse, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le SDE, c'est au-delà du fait que, effectivement, nous, notre prérogative, elle est définie, hein, syndicat de l'énergie. Mais par contre, on a un réseau de partenaires et une connaissance aussi, parce que c'est une échelle départementale. Ce n'est pas non plus une échelle régionale, une échelle nationale. Donc, on a aussi une pertinence, puisqu'en fait, on œuvre aussi pour qu'on ait un aménagement solidaire de notre département sur les questions de l'énergie. Donc, et on a en plus un département, les Côtes d'Armor, qui est très bigarré entre de l'urbain, de la grande ruralité. Donc, on peut mobiliser vraiment des partenaires et se projeter sur des projets. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi pour ça l'intérêt du SDE de se nourrir aussi sur des projets en décentralisé qui vont être plus sur des zones rurales, parce que nous, on a aussi cette physionomie au niveau de notre département.
Je partage sur l'aspect réseau et j'étais assez sensible à ce que disait Monsieur Tétard sur le fait que la population est en fait voit plutôt d'un très bon œil ces actions de coopération décentralisée. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en commune et dans des communes qui portaient des actions de solidarité et effectivement savoir partager avec la population et valoriser ces actions, c'est plutôt quelque chose de très apprécié.
Sur les affaires de régulation ou de prix.
Impeccable. Bon, alors, rapidement, merci pour les questions et l'intérêt par rapport au projet rêve. Rapidement, sur le choix des localités, c'est un gros travail qu'on fait. C'est vraiment une étape importante en amont du projet. On se rend compte que ce choix des localités, la dynamique territoriale, la dynamique politique, c'est vraiment des choses qui sont importantes et on essaie d'avoir le maximum d'indicateurs qui sont au vert avant de s'engager, parce que c'est des projets qui sont à rebondissement et donc du coup de partir avec un terreau positif à la base, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est au niveau terrain. On boucle aussi avec les logiques de planification d'extension de l'accès à l'électricité pour ne pas être en concurrence ni avec des extensions de réseau ni avec des programmes d'électrification rurale plus classiques. Donc ça, c'est un travail de dialogue qu'il y a avec le ministère de l'Énergie et ses agences et puis les directions régionales de l'énergie. Par rapport à la distance au réseau national, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que ça soit... souvent, quand il y a le réseau national, c'est aussi qu'il y a de l'activité et que le marché, notamment pour les entrepreneurs qu'on va accompagner, est présent. Donc, il faut trouver un bon compromis entre le fait de ne pas être trop loin, parce que sinon, tout ce qui est produit et tous les produits transformés, on a du mal à les emmener sur le marché. Mais en même temps, si on est trop près, on perd aussi de la valeur. Donc voilà, donc on parle pas trop en kilomètres, mais plutôt en distance de temps. Là. Donc on a des villages qui sont à 15-20 km du réseau, mais il faut facilement 2-3 heures pour les faire. Il y en a d'autres qui sont plutôt à 40-50 km du réseau national. C'est un peu ça l'ordre de grandeur. Voilà, sur la question de la connexion réseau national, c'est vraiment un prérequis et les choses sont construites, conçues suivant les normes en vigueur pour accueillir le réseau le jour où il arrivera. Et sur la question de la tarification, je vais aller très vite, mais on pourrait en discuter longuement. C'est toujours un énorme sujet sur les projets d'accès à l'énergie parce qu'à Madagascar et ailleurs, le prix du kilowattheure sur le réseau national est souvent très bas, on se retrouve avec des compagnies nationales qui sont souvent en difficulté et qui ont du mal à couvrir leurs coûts avec les ventes d'électricité. Donc on a un prix du kilowattheure qui est souvent plus élevé sur les projets d'accès à l'énergie en zone rurale que sur le réseau national. Le but du jeu, c'est d'essayer de montrer un petit peu la valeur que va apporter cette énergie. Et donc nous, on ne compare pas beaucoup avec le réseau national, on compare plutôt avec les solutions décentralisées qui sont existantes, donc le groupe électrogène, éventuellement les bougies, les piles, les lampes à pétrole. Et puis aussi, on essaie d'inclure dans la réflexion tous les coûts un peu masqués, tous les coûts de transport, toutes les pertes qu'on peut avoir sur les produits, etc. Pour que quand on prenne les choses de manière globale, ce nouveau système d'accès à l'énergie soit finalement intéressant pour les populations locales et les utilisateurs. Voilà, et puis pour la petite question au Sénégal, j'aurais plaisir à en discuter. Le cadre réglementaire sénégalais n'est pas toujours évident sur les questions énergie en zone rurale, mais voilà, j'aurais plaisir à continuer la réflexion. Merci.
Moi, je voulais ajouter qu'effectivement, d'abord, l'association des acteurs locaux, moi, j'essaie de considérer que la coopération décentralisée n'est pas une coopération entre élus. Ce n'est pas plus une coopération entre les services techniques et les services techniques, c'est une coopération entre territoires. Et donc, territoire à territoire. Et dans mon territoire, j'ai des acteurs agricoles, j'ai des jeunes agriculteurs qui ont de la micro-irrigation, j'ai tout cela. Et la coopération décentralisée, pour un élu, doit consister progressivement à mettre tous les acteurs de son territoire en coopération. J'ai une communauté de communes qui a 36 communes, je la préside. La commune de Souël au Sénégal, en Casamance, a 18 villages. Je suis arrivé à faire une coopération entre la communauté de communes et la commune de Souël sur des sujets de son niveau. Et j'ai 11 communes de ma communauté de communes qui ont un partenariat avec 11 des 18 villages de là-bas. Plus mes agriculteurs, plus mon collège qui vient d'envoyer une classe complète là-bas, plus l'hôpital, etc. Et ça, c'est de la résilience. Parce que demain, si le conseil municipal de ma commune changeait d'avis, ça continuerait parce que le territoire est en coopération plus que les élus ou plus que le directeur des services. Et c'est ce qui permet d'associer dans des projets, effectivement, comme vous l'avez dit pour Électriciens sans frontières, les entreprises du coin, etc. Pour revenir au Sénégal, nous portons actuellement un projet de 350 000 euros pour deux villages enclavés près de la Gambie qui n'ont pas d'électricité, qui n'en auront pas avant un moment. Alors il y a un dialogue d'abord avec les autorités nationales, avec l'ASER, parce qu'il y a une espèce de jeu assez amusant. L'autorité centrale dit « j'ai un schéma ». Mais elle se dit « si jamais une COP décentralisée peut faire le truc à ma place pour l'instant, je vais le faire ». Donc on s'y installe. Ensuite, là, il faut avoir les autorisations, les conventions, la régulation du prix, etc. Et tout ça prend beaucoup de temps, mais je crois qu'au Sénégal, c'est compliqué. J'ai dû moi-même me rendre voir le patron, le directeur général de l'ASER, etc., pour qu'on en sorte, pour signer les conventions. Et donc, ben, ça fait partie du jeu. Voilà. Et le contexte malgache n'est pas du tout le même. Pas du tout. Tout dépend du niveau d'organisation aussi du pays. Mais moi, je vous rappelle vraiment, dans cette affaire de ma centrale solaire et de deux villages avec des connexions jusqu'à 5 km dans les villages, je ne suis pas avec... j'ai un syndicat intercommunal d'électricité, 70 communes, mais on a notre propre... société de distribution. Nous sommes dans un syndicat coopératif agricole. Il y en a 11% de la France qui est comme ça. Donc, nous décidons tout. Et donc, nous avons... Elle nous finance. Et puis, nous sommes quand même allés chercher un peu d'argent du CIGEIF, même s'il est un peu loin. Mais, en gros, ce sont des acteurs locaux qui financent tout ça. Et c'est parce que c'est le territoire qui est engagé. Si ce n'est que le maire ou le directeur des services techniques, ça
peut pas donner cette massification des choses.
Merci beaucoup. On va peut-être prendre une autre d'autres questions.
Bonjour, moi je suis Marie-Françoise Roy et je suis présidente d'une association qui gère la coopération décentralisée entre la commune de Cesson-Sévigné en France, donc dans le 35, et la commune de Dankassari au Niger. Alors vous savez qu'avec le Niger, les choses sont compliquées et qu'on a appris en particulier hier que même si il y a une suspension de la coopération étatique, donc toutes les agences de l'eau, l'AFD, la DAECT qui arrêtent leur financement. Par contre, au niveau des syndicats départementaux de l'énergie, des conseils départementaux, des collectivités territoriales de toutes sortes, c'est beaucoup moins bloqué, je dirais. Alors peut-être que dans le domaine de l'énergie, c'est justement une chance dans la mesure où il n'y a pas d'agences comme les agences de l'eau pour gérer ce secteur, mais qu'il y a beaucoup plus de possibilités du côté des syndicats départementaux et puis du côté des entreprises. Quoi. Donc voilà. Donc je voulais simplement dire ça parce que nous, au niveau de notre coopération décentralisée, on a plusieurs actions dans le domaine de l'énergie et c'était un secteur qu'on voulait développer, donc avec le soutien en particulier donc du Conseil départemental 35. Mais voilà. Donc,
Bonjour Arthur Berthet, Grand Châtellerault. Alors je suis désolé, c'est peut-être une question qui amènera d'autres discussions après. C'est surtout pour Expert Solidaire, et pour SDE 22. Alors c'est vraiment sur l'ingénierie pour être actuellement dans une coopération assez forte avec la ville de Kaya au Burkina Faso. On a mis en place il y a quelques années des panneaux solaires, principalement pour les bâtiments publics. Et aujourd'hui, évidemment, des problèmes de maintenance et des envies, éventuellement, en fonction d'une problématique géopolitique aussi, de pouvoir aussi mettre en place, un peu comme votre projet pour Madagascar, des infrastructures relativement identiques. Et je voulais d'abord savoir, au niveau des panneaux solaires, vous faites comment pour les amener? Comment vous faites pour les acheter? Vous passez par des marchés publics? Où, voilà, c'était un peu pour savoir le dispositif là-dessus et aussi au niveau maintenance derrière. Comment vous faites pour assurer justement une maintenance en zone rurale de l'ensemble de ces panneaux qui n'ont pas forcément une vie, qui ont une vie beaucoup moins faible, beaucoup plus faible parfois dans certains pays que d'autres, ce qui nous amène vraiment à des problèmes assez forts au Burkina Faso là-dessus. Merci.
Bonjour, je m'appelle. Voilà, je m'appelle Elage Ba, je suis adjoint au maire de la mairie de Nozy-le-Sec. Je m'occupe de tout ce qui est coopération décentralisée. La commune de Nozy-le-Sec est jumelée à une commune dans le sud de la Mauritanie, à peu près 18 km de Kéili, qui s'appelle Djoul, presque une trentaine d'années. C'est vrai que moi, je reviens sur ce qu'a dit M. Tétard, sur cette coopération décentralisée. Moi, je crois que les communes doivent réaliser le rêve de leur commune partenaire. C'est vrai, nous, au début, on était partis sur une prise de tête. On avait sollicité, ils avaient sollicité qu'on fasse un centre de santé, et alors que Agir ABCD avait demandé à ce qu'on participe. Et là, ça a été bâclé. Le projet a été bâclé. Pratiquement, ce qui ressort de ce projet mis en place par Agir ABCD, que les travaux n'ont pas été réalisés à temps. Et ensuite, il y a eu des fissures, des ruissellements d'eau, et puis ça a créé de gros problèmes. Là, on est obligé de reprendre ce projet pour le réhabiliter. Vous voyez, donc, c'est une prise de tête. Et en plus, ce n'était pas le rêve de cette population-là, parce que tout simplement, on était parti sur une prise de tête, qu'Agir ABCD voulait avoir ce projet, et nous, il fallait qu'on participe à ce projet. Et là, on revient sur un autre projet, c'est qui est pour ce qui est de l'assainissement. On parle de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est une source très rare, qui se fait très rare en Afrique. et aussi que ça peut aussi créer des tensions ou ça peut aussi créer une paix. Donc moi, j'aimerais savoir comment on pourrait aider cette zone située dans l'Afrique où l'eau manque cruellement. Et ensuite, c'est une source aussi c'est un vecteur de conflit, et ça pourrait être aussi un vecteur de conflit, ça pourrait être un vecteur de paix. Comment aider cette zone à pouvoir mieux gérer cette eau via les organisations internationales ou autre chose. Voilà.
Une dernière question.
Merci. Bonjour, Françoise Naturel, ville de Grenoble. En écoutant donc vos présentations, ça fait le lien avec un projet que la ville mène en Arménie avec sa ville jumelle dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. La question que je me posais, c'était de savoir comment vous gériez ou répondiez à mesure si vous trouviez, rencontriez des difficultés en termes de techniciens, en tout cas de ressources humaines pour l'installation, la gestion de toutes ces infrastructures, parce que c'est une problématique qui s'est posée à nous. Donc on finançait, on accompagnait le financement d'installations photovoltaïques ou en énergie renouvelable. Et très vite, on a buté sur ce point-là, ce qui nous a amené aujourd'hui à ouvrir l'année dernière un centre de formation professionnelle sur ces sujets-là, en robotique, pas seulement, robotique, solaire, énergie renouvelable, pour répondre à ces besoins-là et pour faire en sorte qu'il y ait les ressources sur place pour non seulement assurer la maintenance, mais aussi installer toutes ces infrastructures. Donc c'était pour plutôt un échange d'expérience, de quelle manière vous gériez ce sujet.
Merci beaucoup. Donc on va laisser nos intervenants réagir à toutes ces réactions et questions, et on prendra les dernières questions par la suite.
Alors, moi, je voulais revenir sur la question de monsieur. Effectivement, entre le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie, il y a un fleuve qui a tendance à être surutilisé progressivement pour des cultures, etc. Je crois qu'on a dit tout à l'heure « small is beautiful », un petit peu les petits projets, mais il faut des grands projets aussi. Et ces grands projets, la coopération décentralisée, les porte par les agences de l'eau sur l'animation de la réflexion sur le bassin du fleuve Sénégal. Avec préservation de l'eau, etc., etc. Et donc ça, je crois que c'est important qu'en même temps que des villes puissent s'atteler à ces problèmes, qu'on ait aussi un accompagnement au bon niveau de ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Moi, je crois aussi que nous allons avoir beaucoup à apprendre des petits villages du Sahel sur comment on fait les arbitrages en matière d'usage de l'eau lorsque l'eau devient plus rare. Parce qu'on a oublié tout cela en France. Mais ça commence à venir. Comment on arbitre entre tourisme, agriculture, besoins domestiques, élevage, etc. Et là, on va avoir des exemples d'échanges d'expériences qui vont nous venir de nos partenaires du Sud. Et ça, je crois aussi que c'est une voie qui va s'ouvrir pour la coopération décentralisée. Et moi, je vais m'y engouffrer assez vite aussi.
Alors, moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans les propos par rapport au SD22, nous, on a bien cette perspective-là par rapport justement à la mise en place des circuits courts de l'énergie qu'on veut mettre en place sur le département et qu'on veut développer, de s'appuyer justement sur les projets décentralisés qui sont faits et qui prennent en compte vraiment cet item-là. Et pour répondre à la dame, en fait, nous, on s'appuie vraiment sur... Enfin, c'est-à-dire qu'on a les experts au niveau du SDE 22 qui ont des expertises très développées au niveau de chaque énergie renouvelable, hein, puisqu'on a des départements, en fait, qui sont créés au sein du SDE avec à chaque fois une vice-présidente liée à telle et telle énergie renouvelable qui va, lorsque les projets nous sont présentés, étudier ces questions-là pour voir si le projet, on va le présenter ou pas aux membres du comité syndical. Mais après, on est vraiment on travaille vraiment avec les associations qui ont déjà une réelle expertise et qui ont montré par les projets antérieurs qu'elles ont menés que ça tient la route, en fait, dont Électriciens sans frontières et Experts solidaires. Aujourd'hui, c'est là notre dimension. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au niveau du SDE 22. Mais après, effectivement, au niveau du communal, c'est différent parce que j'entends beaucoup parler de villes avec lesquelles vous êtes jumelés.
Donc voilà, donc c'est vrai que la dimension SDE est un peu différente puisqu'on n'est pas sur des jumelages, mais bien sur des portages en lien avec des associations qui ont déjà une réelle expertise de terrain et d'enjeux locaux bien analysés.
Oui, et puis pour compléter, donc finalement les deux questions se rejoignent un petit peu sur les problématiques de maintenance, etc. La première chose, c'est que par rapport à tout ce qui est achat, approvisionnement, en fait, nous, sur les premiers projets d'accès à l'énergie que j'ai fait avec Experts Solidaires, on avait fait venir des panneaux solaires, des onduleurs, etc. On avait géré les histoires d'importation. Et en fait, c'est super compliqué, chronophage, coûteux, et on récupère des dons de matos, mais au final, on se retrouve à dépenser beaucoup de temps et d'argent pour les faire entrer dans le pays. Et deuxièmement, on se retrouve avec souvent du matos qui n'est pas installé dans le pays, pas connu, etc. Donc en fait, ça, on ne fait plus de tout. Et moi, je me bats pas mal pour éviter ça. Et mon critère de choix numéro un du matériel, moi, c'est en fait, je regarde ce qui est présent sur place. Quelles sont les entreprises, avec quel matos ils travaillent. Est-ce qu'il y a un SAV? Est-ce qu'ils parlent français, anglais en fonction de la langue du pays, est-ce qu'il est joignable sur WhatsApp facilement ou autre, enfin, en tout cas, quel lien on peut créer pour faciliter la maintenance. Donc ça, c'est vraiment le premier critère de regarder ce que les entreprises locales font et d'essayer de s'appuyer sur leurs compétences, leur réseau, leur expérience. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de jouer le jeu de la rédaction de cahiers des charges. Enfin voilà, on rédige des cahiers des charges avec des spécifications techniques pour éviter le matériel de mauvaise qualité, mais aussi pour tirer un peu tout le monde vers le haut sur ces réflexions-là. Donc ça, c'est sur la partie achat, approvisionnement, installation. Et après, sur la partie maintenance, pour être totalement honnête avec vous, c'est, sur le volet technique, c'est le gros sujet. Installer des panneaux solaires et mettre en service une installation, c'est pas très compliqué, c'est plutôt maîtrisé. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on maintient et comment est-ce qu'on maintient dans des zones rurales isolées à des coûts adaptés à ce que le projet est capable de générer comme revenu. Donc, je peux vous partager notre expérience. Nous, on fait systématiquement avec les entreprises qui vont fournir et installer des contrats de maintenance et d'entretien, souvent de 12 à 24 mois. Sur ces 12 à 24 mois, il y a un volet donc entretien-maintenance de l'installation et puis un volet formation des techniciens locaux. Un peu sur une formation, et alors il y a une formation de base au moment de l'installation, et puis il y a un peu une formation continue pendant les 12 à 24 mois. Donc voilà, et puis après, je pense que ce qui est important, c'est l'environnement contractuel qu'on met aussi autour du projet. Donc nous, on est sur des projets à maîtrise d'ouvrage communal, donc qui doit avoir un rôle de supervision, pouvoir alerter, intervenir si les choses sont en train de capoter, si les fonds de renouvellement ne sont pas provisionnés. Voilà, un petit peu ce qui est mis en place. Et puis, au niveau de l'association, quand on s'engage sur un territoire, souvent, on s'engage un petit peu dans le temps. Donc, même si on n'a plus de projet spécifique sur la première commune, on est toujours pas très loin. Donc, on essaie d'être un peu dispo. Et puis de mobiliser ce que je n'ai pas dit en introduction, mais Experts Solidaires, c'est un réseau d'experts bénévoles. Donc de mobiliser ce réseau et de faire du lien entre les experts et les acteurs terrain pour répondre à ces problématiques très techniques et opérationnelles. Voilà. Et puis juste un dernier mot pour terminer, c'est que ça, dans les projets qu'on met en place, on a toujours deux visions. Un premier objectif qui est de mettre en place un service eau, énergie, agriculture, etc. Et un deuxième objectif qui est un renforcement de capacité ou de montée en compétence des acteurs avec lesquels on va travailler. Donc c'est les acteurs territoriaux, la commune, le gestionnaire, etc. Mais c'est aussi tous les acteurs et toute la coalition d'acteurs avec qui on va travailler tout au long du projet. Ça peut être des bureaux d'études locaux, des entreprises d'installation, etc. Et d'essayer de faire en sorte que le projet, la mise en œuvre du projet soit bénéfique pour leur formation, les procédures. En tout cas, d'avoir cette double action, double réflexion. Voilà.
Alors, oui, il y avait juste. Merci beaucoup pour ces. Donc, je vais prendre juste une dernière question pour vous, monsieur, parce que je vous ai enlevé le micro tout à l'heure. Donc. Allez-y, puis après, ce sera la dernière.
D'accord, merci. Merci, bonjour tout le monde. Je remercie les présentateurs. Je suis le maire d'une commune au nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis, département de Podor. Je voudrais informer d'abord M. Tétard, le président, qu'il y a un réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal qui regroupe des maires et du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Nous sommes en train de nous atteler sur la gestion de l'eau. La gestion commune et partager des expériences, présenter même des projets de coopération ensemble entre deux communes, soit du Sénégal, de la Mauritanie ou bien Mauritanie-Mali ou bien Mali-Sénégal. Même la Guinée vient d'y adhérer. Donc c'est un réseau qui existe. C'est le député maire de Bakel qui est le président de ce réseau. Pour autre chose, je voulais savoir, est-ce que Experts Solidaires ou SD22 peuvent faire un partenariat direct avec les communes? Ça, c'est une difficulté pour les communes. Je pense que PSE en connaît beaucoup de choses parce qu'il y a des appels à projets PSE. Des communes ou bien des entités d'Afrique veulent répondre, mais elles ne peuvent pas parce qu'il faut avoir un autre partenaire français avec lequel il faut porter le projet. Et ça, c'est une difficulté pour les communes comme la nôtre qui n'a pas de partenaire, une commune partenaire français. Pour une expérience, nous avons eu un partenariat avec une ONG, le Partenariat, qui est au Sénégal, sur le solaire. Bon, nous n'avons pas fait le solaire pour électrifier, mais c'est à 70 km du réseau. Nous avons fait une plateforme économique avec des cantines commerciales où on accueille des commerçants, on accueille des artisans. Et c'est alimenté par un système, par l'énergie solaire. Et ils ne payent pas l'énergie solaire. On a un peu sauté le problème de laser, mais ils payent un loyer à partir des cantines. Donc, c'est une expérience aussi que nous avons vécue. Et l'autre, PSE et les autres, comment associer? Aujourd'hui, nous avons des problèmes de l'alimentation des forages ruraux, surtout avec la cherté du carburant, les machines qui tombent en panne. Mais je pense qu'il y a un potentiel de link entre PSE et les collectivités et les ONG pour alimenter les forages à partir de l'énergie solaire. Merci.
Bonjour. Merci beaucoup pour cette réaction. Donc, je ne suis pas certain qu'on ait le temps du coup de répondre à tous les éléments qui ont été élaborés dans votre intervention. Mais effectivement, oui, je vous invite du coup à poursuivre la discussion et les échanges donc après l'atelier. De toute façon, ces rencontres sont faites pour ça. Et je vais sans attendre donc laisser le micro à Lucas du coup pour nous dire le mot de la fin.
Ouais. Vous m'entendez ? Quelques éléments de synthèse très rapides, hein, sous forme plutôt de mots-clés ou d'idées, d'idées fortes un peu. Premièrement, l'intérêt de partenariats multi-acteurs. On a parlé de coalition d'acteurs, avec notamment des acteurs institutionnels et administratifs importants qui peuvent accompagner aussi les collectivités. Deuxièmement, la pertinence de l'ancrage territorial et de l'ancrage local. C'est aussi en termes de mots-clés et d'idées fortes qui ressort de ces échanges. Troisièmement, la volonté politique, pas de risque politique, nous disait Jean-Marie Tétard, et le discours aussi des élus, avec une durabilité, une résilience, et au-delà, poursuivre la décision politique par les territoires, la continuité à l'échelle des agents territoriaux et des territoires, des projets qui sont d'abord portés politiquement. voilà, on en a fini. Deux mots pour vous dire qu'il y a deux sièges pour les collectivités locales au sein du réseau Cycle. Donc il y a plusieurs collectivités qui se sont positionnées, mais si vous voulez, vous pouvez parler avec Clément. Et enfin, la suite du programme. Donc là, le meilleur moment de la journée, on va aller manger. Et ensuite, il y aura dans cette salle l'atelier sur le sport et la coopération décentralisée. Dans le grand amphi sur les changements climatiques, salle Armand Ouest sur les ODD, et enfin en salle 2, ce sera sur les crises. Voilà, vous avez comme ça la suite du programme. Merci beaucoup.
Merci aux intervenants et merci à vous.